Bonjour, on reçoit aujourd'hui, donc dans le cadre du séminaire Espace fluide, espace solide, Thomas Hippler, qui est historien, si je ne m'abuse. Oui.
On peut dire que ça comme ça, j'ai quelques problèmes d'identité.
Philosophe, mais... Philosophe et historien, en fait. Hein. Et qui vient de publier ce livre aux éditions Les Prairies Ordinaires. Enfin, il vient de, il y a 6 mois, 8 mois
au mois de février.
C'est ça. Le livre s'appelle « Le gouvernement du ciel », sous-titre « Histoire globale des bombardements aériens ». Donc c'est une histoire de la notion de bombardement par les airs au XXe siècle, mais pas tellement sous l'angle strictement factuel, technique, comme déjà des dizaines d'ouvrages l'ont fait, pour ne pas dire des centaines, mais plutôt d'un point de vue sociologique et de ce qu'on appellerait les sciences politiques. Mais il vous le dira mieux que moi. Donc, j'ai pensé que c'était important, un petit peu comme le mois dernier, j'avais présenté rapidement cet autre ouvrage collectif, britannique cette fois, qui s'appelle From Above, je suppose que vous le connaissez, qui traite d'une approche similaire, comme son nom l'indique, par en haut, sur la notion d'attaque et de frappe par en haut, et sur l'introduction de ce qu'ils appellent une nouvelle dimension dans la géopolitique, qui est la dimension verticale. Voilà, ça me semble important à plus d'un titre, parce que, après tout, ce nouvel espace fluide qu'est l'air est devenu le nouveau paramètre déterminant dans les conflits au XXe siècle, se surajoutant au premier espace fluide qu'est l'océan, qui lui est utilisé depuis beaucoup plus longtemps. Et en attendant les nouveaux espaces fluides qui commencent à être exploités militairement, l'espace extra-atmosphérique et peut-être, si c'est un espace fluide, c'est d'ailleurs une problématique qui n'est pas tranchée, que nous avons déjà commencé à explorer, que nous continuerons à explorer le mois prochain, par exemple, savoir si le cyberespace, ce que j'appelle l'éther, est un espace fluide aussi. Voilà, et puis bon, j'ai bientôt terminé le programme sur l'année. Il y aura également d'autres séances sur des thèmes, cette fois non militaires aussi, d'autres sur des thèmes militaires, ou approchant du militaire, je dirais du stratégique, puisque cette problématique espace fluide, espace solide a l'avantage de pouvoir ouvrir sur tout un tas de domaines très très différents les uns des autres. On a l'occasion d'en reparler. Voilà, Monsieur Hippler, en attendant, vous avez la parole pour présenter votre ouvrage.
Merci beaucoup, et donc merci également pour cette invitation. Donc ça dure un peu de temps, on a déjà prévu ça l'année dernière, mais on n'a pas trouvé les... Voilà. Donc je suis d'autant plus content, et donc je vais parler pendant à peu près une heure, et ensuite on va engager dans une discussion, quoi. J'imagine qu'elle va être très intéressante. Donc effectivement, j'ajouterai peut-être un autre élément avant de commencer, justement, à propos de l'espace fluide, ce qui vient d'être dit là, tout à l'heure, à savoir, on va certainement revenir à cela, que le précédent naval, la stratégie navale, me semble absolument fondamentale pour toute la stratégie aérienne, qui s'est développé au XXe siècle. Donc c'est très clair, j'ai un auteur comme Douai, par exemple, qui s'appuie très très fortement sur une stratégie navale, donc notamment sur Mann. Donc on a, de manière générale, disons, cette approche que j'ai choisie pour ce livre, sur le gouvernement du ciel, à savoir la question de savoir comment s'articulent des tentatives de gouverner un espace mondial gouverné non pas directement par un contrôle d'un territoire classique, hein, par une souveraineté classique, mais un gouvernement, donc, comme le titre l'indique, par en haut, donc de loin, donc, qui renonce au contrôle classique de la souveraineté terrestre et adopte donc d'autres stratégies. Cette visée même s'inscrit, me semble-t-il, très clairement dans une longue histoire de domination impériale qui est notamment théorisée et pratiquée par le biais de ce qu'on peut appeler donc, le contrôle des MR à la suite de Mann. D'autre part, et donc de cet ouvrage croise un peu de lignes, cette approche m'a permis de, comment dire, développer de manière un peu comme un essai, de manière un peu lâche, plusieurs thèmes qui me semblent fondamentaux pour l'histoire du XXe siècle, et donc de prendre un biais, un prisme particulier, c'est-à-dire ces différentes manières de gouverner de loin, par le ciel, un espace mondial, donc pour aborder une série de questions qui ont marqué le XXe siècle, donc comme le colonialisme, la décolonisation, l'état social, son déclin ultérieur, la nationalisation des sociétés, etc., etc. Donc, comme ça s'explique le sous-titre de cet ouvrage, une histoire globale des bombardements aériens, qui est plusieurs thèmes qui se croisent. Bien, donc je vais commencer donc cette présentation exactement de la même manière. Donc j'ai commencé le livre, c'est-à-dire avec un petit récit de la première bombe qui a été lancée dans l'avion. Donc on est en 1911 en Libye, le 1er novembre, et donc c'est un pilote italien qui s'appelle Giulio Gavotti qui lance donc une quinzaine de kilomètres au sud de Tripoli la première bombe. Le contexte, pour le rappeler rapidement, et que l'Italie, la monarchie libérale de l'Italie avant la Première Guerre mondiale, se lance donc dans la conquête d'un empire colonial, lance un ultimatum à l'Empire ottoman qui refuse de céder Tripoli, et ensuite, donc à partir de fin novembre, il y a des troupes italiennes qui débarquent en Libye, dont donc Giulio Gavotti qui fait partie d'une petite flottille d'aviateurs. Le contexte est également celui-ci. Comme beaucoup d'autres armées occidentales, les Italiens ont fait l'acquisition récemment de quelques appareils volants, mais en gros, on ne sait pas trop quoi en faire. Situation assez typique, une évolution technologique. Donc on imagine qu'il y a des possibilités militaires derrière, mais on n'a pas de doctrine d'emploi. Du coup, la guerre de Libye de 1911 est également une possibilité pour tester tout simplement plusieurs choses, à savoir tester des avions, tester des aéroplanes, tester le bombardement aérien, tester la reconnaissance, etc., etc. Initialement, on mise plutôt sur cette dernière mission, à savoir sur la reconnaissance stratégique. Donc les aviateurs sont donc envoyés pour tenir l'état-major informé sur les mouvement de troupes, etc. Or, il se trouve que les combattants libyens sont dans une position très difficile, notamment parce que l'Égypte refuse de laisser passer des transports logistiques, et donc le commandant décide de miser sur une stratégie de guérilla. Retrait de troupes classique. Du coup, la notion de reconnaissance stratégique perd un peu son utilité, au moins comme on la concevait avant, parce que tout simplement, les guérilleros ne concentrent pas leurs troupes de la même manière qu'une armée régulière. Voilà. Donc, du coup, les aviateurs italiens s'inventent de nouvelles missions, dont celui que Giulio Gavotti, le 1er novembre 1911. Ensuite, par un très curieux hasard historique, si on souhaitait le transporte exactement un siècle plus tard, au 1er novembre 2011, on se rend compte que depuis la veille, les bombardements de l'OTAN, qui avaient commencé le 19 mars de cette année, avaient cessé. Donc on est exactement un siècle plus tard, moins un jour, donc c'est le 31 octobre 2011 que les missions de bombardement ont cessé, dans le même théâtre, exactement dans le même théâtre. Et donc on a un peu, moi à l'époque, j'ai un peu l'impression qu'il y a l'histoire qui se répète. Et ce n'est pas le seul, disons, la seule coïncidence historique ou géographique. Parce que si on regarde un peu les débuts de l'histoire des bombardements, on se rend compte que c'est très souvent des territoires qui ont été soumis aux bombardements avant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres surtout, dont on entend parler beaucoup aujourd'hui. Ça concerne notamment le territoire qu'on appelait à l'époque la frontière nord-ouest de l'Inde, aujourd'hui on dirait l'Afghanistan, la Mésopotamie, donc l'Irak. Ça concerne également la Syrie, le Maghreb, ensuite le Soudan, le Nicaragua, les Philippines, etc. Donc il y a une sorte de continuité assez intéressante, géographique, en ce qui concerne donc, les bombardements aériens. Bien, donc, qu'est-ce qui se passe donc en ce début du XXe siècle ? Donc, Giulio Gavazzi n'a pas vraiment de plan de mission, donc il essaye, plutôt de sa propre initiative. Il avait repéré un camp d'insurgés libyens la veille. Il s'y rend, il lance 3 bombes en tirant le détonateur avec ses dents, et ensuite il lance de manière extrêmement, comment dire, approximative. Il arrive tout de même à frapper donc, l'oasis de Ain Zaina. Donc, comme je disais, une quinzaine de kilomètres au sud de Tripoli. Donc, il est initialement parti en Libye, sur le continent africain, pour une mission de reconnaissance. Ce qu'il fait ensuite, c'est de frapper un camp de combattants, et plus particulièrement de combattants irréguliers, et encore plus particulièrement un camp de combattants qui ne sont pas actuellement engagés dans des combats. Donc quelque chose qui est situé derrière les lignes. En outre, cette oasis est également, et pas uniquement un camp de combattants, c'est également un système social et économique en entier. Et donc, la nouveauté, me semble-t-il, de cette première frappe aérienne est là, à savoir qu'il ne s'agit pas de frapper une cible comme on connaissait cela avant, mais on peut considérer qu'il y a un nouveau type de cible qui a été constitué et qui constitue un mélange très étrange entre donc des combattants réguliers et irréguliers, entre des forces armées et un système social et économique, etc. Donc on peut considérer qu'il s'agit là d'une nouvelle manière de faire et de penser la guerre, à savoir une sorte de pas essentiel vers une hybridisation, comme on dit aujourd'hui, de la guerre, hybridisation en particulier d'une guerre asymétrique. Donc voilà, donc on a des notions qui nous rentrent jusqu'à aujourd'hui. Et donc on va certainement revenir à cela. La pensée stratégique a surtout retenu l'aspect le plus spectaculairement novateur de cet événement, à savoir qu'il était possible de frapper non seulement les forces armées en action, mais ce qu'on appelait à l'époque les sources mêmes de leur puissance. Sources mêmes qui sont donc derrière, géographiquement, derrière les lignes, mais qui sont surtout la vraie puissance d'une armée. Donc il n'y a rien d'étonnant alors à ce que, au fait que, notamment avec la Première Guerre mondiale, on a pu considérer la force aérienne comme une manière de contourner le front qui s'est stabilisé pendant 4 ans, et de frapper donc derrière le front, donc de contourner le point où qu'on n'arrivait pas à briser, et de frapper l'adversaire là où il était faible. Simplement contourner le point fort. La raison militaire, j'imagine partie de ma pesantière là-dessus, c'est que la puissance de feu, le développement de la puissance de feu depuis la fin du XIXe siècle a simplement rendu l'offensive plus compliquée. Hein, donc, tactiquement, la défensive était donc renforcée par l'état de la technologie militaire. Et donc, du coup, la force aérienne constituait donc une possibilité dans cette situation de pouvoir mener une offensive stratégique face à cet engluement tactique sur le front qui stabilisait donc le front. Et donc, l'idée derrière les stratégies ou les doctrines qui se développaient à cette époque-là était donc de frapper l'adversaire alors qu'il était faible, à savoir la production industrielle, les moyens de transport, et également, et peut-être surtout, la cohésion politique et morale de ces populations. On pourra peut-être trouver d'autres points clés, mais ces trois me semblent essentiels. Donc la production industrielle, les moyens de transport et la cohésion politique et morale. Avec ces trois objectifs, il n'est pas toujours très clair, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est pas toujours très aisé de les distinguer. Et très souvent, effectivement, même dans la pensée stratégique et dans l'action stratégique, on a un peu l'impression que tout se mélange un peu. Et voilà. Il n'est donc pas par hasard que ce soit notamment autour de la Première Guerre mondiale ou avec la Première Guerre mondiale, à l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est peut-être ça le plus correct, que ce genre d'options stratégiques viennent d'être testées et perfectionnées. À cet égard, donc, il convient de citer un exemple important, quoique peut-être pas si connu que ça, parce que pas réalisé, c'est-à-dire un plan pour mener une grande offensive de bombardement stratégique aérien contre l'Allemagne, qui était prévu pour la fin 1918, qui n'a pas eu lieu, tout simplement parce que la guerre a été terminée avant. Et je vais revenir tout à l'heure à cet exemple-là. Bien, donc, si on garde en tête donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette évolution depuis 1911 et la fin de la Première Guerre mondiale, on peut très clairement voir qu'il y a un mouvement caractéristique et très intéressant, géographique d'abord, qui nous mène donc de la périphérie colonisée du système monde, pour employer cette terminologie qui a guidé un peu l'approche dans ce livre, celle de la théorie du système monde, donc de la périphérie du système monde, donc en Libye et ailleurs, jusqu'au centre, à savoir jusqu'en Europe, qui donc peut nous inviter à reconsidérer un certain nombre d'options historiographiques qui ont largement guidé l'histoire militaire en ce domaine, à savoir là où l'historiographie sur la guerre aérienne s'est très largement focalisée sur la Deuxième Guerre mondiale, et là encore surtout sur les bombardements contre l'Allemagne et le Japon, évidemment, on a un peu perdu de vue qu'il y avait donc tout un précédent colonial de longue date où à la fois les techniques ont été perfectionnées, où les gens qui ont mené ces attaques ont été socialisés militairement, qui ont eu voilà. Et à partir de là, la question devient plutôt comment peut-on expliquer qu'une technique de faire la guerre, une manière de faire la guerre, qui s'inscrit très clairement dans une très longue histoire de la guerre coloniale, qui n'a rien de surprenant dans ce contexte-là, puisse à un moment donné rentrer, si on veut, dans le centre, et là, en revanche, bousculer les manières de faire la guerre, à savoir la distinction essentielle qu'on avait l'habitude de faire, au moins en théorie, pendant 3 siècles, entre combattants et non-combattants. Donc on a toute une longue histoire qui peut nous amener à peut-être voir un peu différemment cette histoire. Bien, il y a donc quelque chose, me semble-t-il, comme ce que j'appelais dans ce livre, une matrice coloniale de cette guerre de bombardement et de manière plus générale de la guerre totale. Donc là, évidemment, j'ai une filiation intellectuelle depuis Hannah Arendt de considérer que les totalisations différentes hein, ont souvent leurs origines dans le colonialisme. Il me semble que ce qui se passe avec la guerre totale, dont le bombardement stratégique est une émanation très claire, en est un exemple. Bien, donc regardons quelques exemples qui me semblent éclairantes pour voir un peu cette histoire. Donc, à l'issue de la Première Guerre mondiale, la Royal Air Force, donc, qui était la première armée de l'air institutionnellement indépendante, commence à lutter pour sa survie institutionnelle. Tout simplement, après la guerre, on n'a plus d'argent, évidemment, et donc cette institution est menacée d'être réintégrée dans les forces terrestres et navales. C'est une situation dans laquelle l'ambitieux locataire du ministère de l'air, qui s'appelle Winston Churchill, saisit une occasion qui se présente depuis quelques années déjà, c'est-à-dire une insurrection dans le Corne d'Afrique, et de proposer d'y engager la force aérienne pour éradiquer cette insurrection. Donc c'est déjà depuis quelques années, vraiment pas moins de six missions terrestres qui avaient échoué d'éradiquer ces quelques centaines en fait de combattants de nationalistes et disons musulmans intégristes. Donc là aussi on a effectivement quelque chose qui est une sorte de filiation avec des défis vers la sécurité depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui qui est assez intéressant. Donc c'est dans une description assez rigolote, britannique, contemporaine. Donc il y a 6 avions qui sont dépêchés vers le campement de ces combattants qui ne sont pas au courant que les avions existent. Donc leur leader, que les Britanniques appellent « the Mad Mullah », se demande qu'est-ce que ça peut être, là, ces engins volants qui s'approchent, quelqu'un émet l'hypothèse que c'est peut-être des chariots d'Allah qui vont le porter au paradis. D'autres pensent qu'il s'agirait plutôt d'une intervention du sultan ottoman pour annoncer qu'il a finalement gagné la Grande Guerre. Bon, bref, donc le moulin se met en vêtements d'apparat pour accueillir le messager. Et il est servi. Donc son camp est donc bombardé. Il n'est pas tué lui-même, mais s'enfuit avec quelques fidèles dans le désert et meurt peu de temps après de la grippe, coupé donc toute une sorte d'infrastructure, donc coupé de ses vivres, coupé de ses hommes et coupé de son soutien logistique. Donc ça, c'est donc, disons, ce qui est stratégiquement important là-dedans. Donc c'est une petite action qui est pourtant très importante pour ce qui va suivre. C'est-à-dire une petite action où donc une intervention ponctuelle et très peu chère arrive à éradiquer une insurrection que pas moins de 6 tentatives terrestres n'ont pas réussi à éradiquer. Le ministère de l'air est donc dans une position de force pour négocier avec les autres services lors des prochaines conférences coloniales, et notamment lors de celle qui a lieu au Caire en 1921, où il s'agit de se mettre d'accord sur quelle administration coloniale va s'occuper des territoires qui sont arrivés sous le contrôle britannique après la Première Guerre mondiale. Notamment, ce qui est le plus intéressant et le plus important dans ce contexte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, donc territoire anciennement ottoman, que les Britanniques ont donc occupé pendant la Première Guerre mondiale, commencé, donc on n'a pas beaucoup parlé là récemment, avec l'accord franco-britannique de 1916 sur le partage des territoires syriens et irakiens. Bref, donc les Britanniques ont donc rajouté un nouveau territoire à leur empire et ils ont toujours les mêmes difficultés, à savoir des difficultés financières, tout simplement, il est trop cher de l'occuper, ces territoires. Dans ce contexte, le ministère de l'air va effectivement réussir à ce que ce territoire soit placé, avec d'autres territoires, sous son contrôle. votre territoire, ce sera notamment la Palestine, mais je ne vais pas m'apesantir très longtemps là-dessus, parce que le contrôle aérien de la Palestine a été un échec pour tout le monde. Donc l'Irak, qui est donc le territoire où la stratégie de ce qui s'appellera plus tard le contrôle aérien, ou the police bombing, en anglais, donc le bombardement policier. Donc police, police dans ce contexte a une signification bien particulière, donc on parle de police impériale, qui est donc évidemment ce type d'action militaire qui consiste à mater les insurrections, qui agitent donc périodiquement des colonies, et surtout en cette fin de Première Guerre mondiale et immédiatement après. Donc il y a une vague d'insurrections anticoloniales, et notamment dans le Moyen-Orient. Les raisons pour ça sont certainement... Enfin, il y en a plusieurs, je citerai seulement deux. C'est d'une part, c'est des effets à long terme de la stratégie, disons, allemande et autrichienne de globaliser la guerre, notamment dans ces territoires-là, et d'enrôler donc notamment enfin, l'alliance germano-turque avec le soutien porté au mouvement de libération nationale, comme on dirait aujourd'hui, ou de transnationalisme pan-islamiste. Donc d'une part, cette stratégie-là, donc l'héritage de la Première Guerre mondiale. Et deuxièmement, évidemment, un mouvement en faveur de l'autodétermination des nations, notamment porté par le président américain Wilson avec ses 14 points, qui ont donc suscité un large espoir partout dans le monde à ce que, voilà, obtenir une sorte d'autodétermination qui a été rudement déçue après la Première Guerre mondiale. Donc tout cela a créé une atmosphère un peu explosive qui explique qu'il y avait beaucoup de tensions et de révoltes. Donc, dans ce contexte précis, donc c'est le ministère de l'Air et donc Royal Air Force qui va promettre et tenir sa promesse hein, de contrôler ce territoire à des frais extrêmement réduits. Donc, avant que l'armée de l'air prenne le territoire, les forces britanniques ont dépensé 24 millions de livres par an pour contrôler ce territoire. Et après trois ans, ce chiffre est descendu à 4 millions. Donc entre 24 et 4, donc voilà, c'est un gain très important. Comment est-ce qu'on y arrive à maintenir un contrôle colonial à un coût aussi peu élevé? Donc on forge le concept du police bombing, donc le bombardement policier, qui est, comme beaucoup de concepts et de doctrines, se développe petit à petit, à savoir d'abord, on commence par adapter la technique qu'on a essayée en Somalie, à savoir quand il y a une insurrection, on envoie des avions, on essaye de lancer des bombes et surtout de mitrailler les insurgés. On arrive très vite à se rendre compte des limites de cette tactique, hein, les insurgés se cachent. Et avant donc d'arriver à l'idée qu'il vaut peut-être mieux adopter une approche plutôt indirecte, à savoir ne plus les chasser directement, essayer de les tuer, mais d'une certaine manière d'assécher leur milieu. C'est-à-dire d'une part, dans un premier temps, de mitrailler non pas les insurgés eux-mêmes, mais leur bétail, et dans un deuxième temps, d'employer le concept du blocus aérien, directement calqué évidemment sur le blocus naval qui a été donc déterminant, comme chacun sait, pour la fin de la Première Guerre mondiale. Donc un blocus aérien qui consiste à donc d'abord bombarder lourdement des points nodaux pour des tribus insurgées, notamment des oasis, des accès à l'eau, pendant quelques jours, et ensuite maintenir un bombardement léger pendant suffisamment de temps pour donc tenir les insurgés et leur infrastructure éloignées donc de l'eau, et donc en gros de les placer devant l'alternative de se rendre ou bien de mourir. Des techniques similaires ont été employées donc, par des Français en Syrie à l'époque. Je dis ça simplement pour voilà, parce que j'ai beaucoup parlé de stratégies britanniques qui sont les plus importantes, mais les Britanniques n'ont pas été les seuls. Donc en Syrie, c'est à peu près la même chose. Le consul britannique à Damas parle d'une « deliberate politics of frightfulness », donc une politique délibérée de la terreur ou de l'atrocité, ou au Maghreb, où donc des mercenaires aériens américains à la solde donc des Espagnols et des Français bombardent donc lourdement les populations civiles, notamment les Espagnols commandent les 23 une livraison de gaz moutarde en Allemagne, qui est donc ensuite employée de manière extensive contre une population civile. Également, un autre observateur militaire commente les missions françaises au Maghreb en disant qu'il s'agit de missions qui sont « drastic in the extreme » en ce qui concerne donc leur caractère non discriminatoire. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais plutôt revenir directement à une conclusion qui me semble importante, à savoir que cette technique du « police bombing » transforme radicalement les rapports entre adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, selon la conception classique de la guerre, on fait la guerre, évidemment, pour obtenir la paix, d'une part. La paix est classiquement, disons, dans la conception européenne, liée à une occupation de territoire suite à une victoire militaire contre des forces armées organisées. S'établit donc un lien entre, disons, obéissance et protection entre la puissance conquérante et une population civile. Et donc la puissance conquérante est donc une sorte de, se trouve dans une position de souverain exécutif temporaire, au moins sur un territoire. Le contrôle aérien, tel qu'il se développe depuis les années 20, défait ce lien, à savoir, et cela de plusieurs points de vue. D'une part, la finalité des actions guerrières maintenant n'est plus l'occupation de territoire, mais tout le contraire. Il s'agit tout au contraire d'économiser les coûts liés à cette occupation. Deuxièmement, le lien entre protection et obéissance avec la population civile se défait également. Et troisièmement, l'idée que l'on se fait traditionnellement en Europe également d'une pacification s'évapore également. À savoir, une pacification se fait par le contrôle d'un territoire par des forces organisées. Justement, il ne s'agit plus d'occuper et de contrôler un territoire. C'est précisément ça la raison pour laquelle beaucoup, notamment de protagonistes militaires issus des forces terrestres, sont montrés très critiques envers ces genres de techniques, en disant qu'il faut en dernière instance toujours le pied du fantassin pour pouvoir pacifier. Autrement, on s'engage dans une guerre où il n'y a plus de pacification possible, donc une guerre sans fin, tout simplement parce que l'arme en elle-même est incapable de pacifier. Et donc c'est effectivement, me semble-t-il, le paradoxe de cette arme-là, donc déliée de l'espace terrestre, qui rend donc très compliqué, voire impossible, la pacification, mais j'imagine on peut discuter de ce point de vue tout à l'heure. Bien, quoi qu'il en soit, c'est de toute manière, notamment dans cette histoire du début du bombardement aérien, la population civile qui est cible donc par attaque par mitrailleuse, par bombe explosive ou par gaz toxique. Et les trois vont toujours ensemble. Donc on ne vise pas, dans le contexte de cette police impériale, donc des insurgés pour eux, uniquement, mais leur contexte et donc le milieu dans lequel ils peuvent mener leur combat. Donc il n'y a absolument rien de, enfin, rien d'étonnant à cela, puisqu'il y a effectivement donc, une très longue tradition, très explicite à cet égard, en ce qui concerne les guerres coloniales. En gros, en disant, contrairement à une grande guerre européenne, où il s'agit de vaincre une armée, là je fais bref, il s'agit dans une guerre coloniale de terroriser une population. Et de donc faire abstraction d'un certain nombre de limitations inhérentes à la guerre européenne, notamment cette distinction entre combattants et non-combattants. Et il y a plusieurs raisons à cela, auxquelles je vais revenir dans un instant. Donc, dans une petite guerre, donc on appelle ça très souvent à l'époque, une guerre coloniale, donc il ne s'agit pas de vaincre une armée, mais de soumettre et de châtier, c'est des citations d'un officier colonial britannique très, très influent, donc de châtier et de soumettre tous les sujets réfractaires, voilà. Bien, donc il n'y a rien de nouveau, si l'on regarde cette généalogie qui mène la guerre coloniale classique jusqu'à l'aviation coloniale au XXe siècle. Ce qui change par contre, et ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va trouver maintenant, à partir des années 20-30, des préceptes étrangement similaires, en ce qui concerne les doctrines de bombardement stratégique entre les grandes puissances. On a donc un mouvement qu'on a donc quelque chose qui est bien rodé dans la sphère coloniale, qui va être appliqué au centre du système monde. Et on trouve effectivement des formulations souvent étrangement similaires dans les deux cas. Donc on a là quelque chose qui est plutôt inhabituel et plutôt, surprenant. À savoir que ce n'est pas le centre qui projette son modèle d'organisation sociale vers les colonies, mais que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt un modèle d'organisation sociale qu'on pense pouvoir détecter et voir dans les colonies, et qui détermine donc un certain emploi de la force armée, que l'on va réimporter dans le centre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que, et à un niveau très basique, qu'on arrive à conceptualiser militairement, et de traduire ensuite ces concepts en doctrine d'emploi, l'idée que ce n'est plus donc les forces armées organisées qu'il faut frapper, mais une population civile ennemie en entier. Comment donc expliquer cette extension, si vous voulez, du pratique coloniale à l'ensemble de la population mondiale ? Disons donc, la question analytique devient donc celle-là. Comment se fait-il que cette distinction bien rodée dans l'histoire du monde entre une périphérie colonisée et un centre européen s'effrite ? Là, du coup, j'ai essayé de développer cette thèse sans doute provocatrice dans ce livre qu'on peut trouver dans les doctrines d'emploi. Une idée très claire, assez clairement énoncée, qu'il y a un élément qui approche les sociétés, notamment tribales, par rapport auxquelles ce concept de police bombing a été développé dans un premier temps, et ensuite par l'Europe. Donc c'est que ces deux types de sociétés se rapprochent par un caractère fondamentalement démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement, en ce qui concerne l'Europe, qu'on arrive à penser que pour vaincre dans une guerre, un ouvrier n'est pas moins important, ça c'est autour de la Première Guerre mondiale, qu'un soldat, au contraire. C'est une guerre industrielle, et donc il est donc absurde de camper sur l'ancienne position sur laquelle un ouvrier, donc un civil, devrait être protégé contre l'action militaire et un peu cibler un soldat. D'autant plus que le soldat étant très largement sont des conscrits, c'est-à-dire des citoyens lambda, et que tout simplement cette distinction ancienne n'est plus adaptée. Voilà, donc il y a beaucoup de militaires qui, autour de la Première Guerre mondiale, arrivent à croire cela. Deuxièmement, la guerre devient, disons, démocratique, si vous permettez cette expression un peu cynique, donc démocratique dans le sens que maintenant on peut cibler tout et n'importe qui, donc là, une sorte de démocratisation de la possibilité de mourir dans la guerre. Donc la guerre devient démocratique dans un autre sens encore, à savoir, on considère, et donc c'est notamment des stratèges britanniques qui sont assez explicites là-dessus, et ce n'est certainement pas un hasard que ce soit les Britanniques, hein, donc, qui ont donc un système démocratique des plus anciens en Europe, qui considèrent que c'est la démocratisation, le syndicalisme et l'industrialisation hein, qui sont des caractères marquants de la situation guerrière en Europe. Donc démocratisation, industrialisation et syndicalisme. Les trois convergent d'une certaine manière dans l'action politique possible de la population ouvrière organisée. À savoir, pour mener une guerre, il faut des industries d'armement qui sont nécessairement opérées par les ouvriers, qui ont donc la possibilité de freiner la mobilisation et la production guerrière par une grève. Et en plus, ces mêmes ouvriers sont citoyens et ont droit de vote et droit politique dans un État. Vous pouvez déjà facilement imaginer la conclusion stratégique de ce genre d'argument. Donc, le peuple démocratique, a maintenant la possibilité d'influencer par la grève ou par le vote démocratique, l'action guerrière des gouvernements. Donc on ne peut plus considérer, comme on avait l'habitude avant, que gros, le peuple n'a rien à voir dans une décision de faire la guerre. Donc le peuple est, d'une certaine manière, responsable dans une démocratie des agissements des gouvernants. Et d'autant plus, et ensuite, le peuple est également, et notamment la population ouvrière, la cheville essentielle pour mener un effort de guerre. Donc, du coup, donc deux citations de deux théoriciens aériens britanniques. Le premier, c'est Brooke Popham, premier commandant du Staff College de l'armée de l'air britannique, qui disent maintenant il faut briser la force de la volonté de la nation ennemie, et faire cela est l'objectif de toute nation en guerre, briser la force de la volonté. Et donc Trenchard, qu'on appelle le père de la Royal Air Force, dit que l'objectif des bombardements aériens est, je cite, de faire en sorte que le gouvernement ennemi demande la paix sous la pression de la population, exactement de la même manière que la famine dû à un blocus du pays contraint le gouvernement à demander la paix. Donc, c'est toujours le peuple qui est désigné ici comme élément décisif qui va déterminer la décision politique d'un gouvernement de demander la paix. Donc ça, c'est assez clair. Il n'y a pas assez peu de doute là-dessus que les stratèges militaires conceptualisent l'action politique du bombardement de cette manière. Ensuite, par contre, il y a plus de questions que de réponses. Parce qu'on peut se demander maintenant comment ils pensaient précisément que ça allait se produire. Et bien là, on a très peu de renseignements. En gros, ils ne le savent pas. Il y a plusieurs possibilités qu'on peut émettre. Ou bien, on considère que le gouvernement sera à l'écoute des souhaits de la population. Et si la population veut faire la paix, donc le gouvernement veut le faire. Ou bien que le gouvernement sera remplacé par une révolte, une révolution. Donc là, comme le cas russe, par exemple, évidemment, donc révolution, ensuite le nouveau gouvernement demande la paix. Ou bien que le gouvernement va demander la paix par peur, justement. Donc tout cela nous renvoie, si on veut, conceptuellement à des conceptions très différentes de ce que l'on peut considérer donc être un régime démocratique. À savoir, est-ce que ça serait le souhait de la population qui va en dernier ressort primer sur donc une décision politique de demander la paix, Ou est-ce qu'on a une conception donc je vais essayer de développer ici un peu en la caractérisant de démocratie insurrectionnelle, à savoir que une sorte d'accord minimal hein, qui est nécessaire de la population avec la politique du gouvernement, et sinon ça serait tout simplement par la révolte ou la révolution que la volonté du peuple se fera chemin. Bien, donc je vais peut-être accélérer un peu parce que ouais, effectivement je suis un peu en retard. Bien, donc en tout cas, retenons pour l'instant que on peut dire que la bombe lâchée ou larguée par un avion est une sorte conceptualisée comme une sorte d'arme démocratique hein, qui frappe tout le monde et qui frappe donc toute une population de manière sans faire de distinction et qui frappe surtout qui frappe le souverain collectif, qui frappe des citoyens qui ont le pouvoir politique de faire en sorte que la guerre s'arrête. Or, dire cela ne serait pas complètement correct parce que, effectivement, un bombardement stratégique frappe d'une certaine manière tout le monde, mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Les stratèges militaires et aériens sont très explicites à cela également. La cible principale, c'est la population ouvrière. Il y a deux raisons, enfin il y a plusieurs raisons qui se mêlent un peu à cela. Des raisons techniques et des raisons politiques. Donc commençons par des raisons techniques qui sont assez évidentes. Des quartiers ouvriers sont moins bien sécurisés, plus densément populés, moins sécurisés contre le feu. Et en ce qui concerne notamment des tactiques de guerre aérienne par bombe incendiaire, mis en place notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup plus facile de faire brûler des quartiers ouvriers que de quartiers bourgeois. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez certainement développé notamment à partir du bombardement de Hambourg de juillet 1943, c'est la première, disons, étape efficace dans ce sens-là. Donc on ne mise plus sur les explosifs qui font donc trop peu de dégâts, mais sur les forces d'autocombustion d'une ville, de faire en sorte que donc, la ville brûle. Voilà. Donc quelque chose qui, donc, c'était célèbre, les exemples d'autres, c'est Dresde, mais surtout le Japon. Largement bâti en bois, qui brûle donc très bien. Voilà, donc il y a des raisons techniques à cela qui font donc que c'est plus facile de bombarder des ouvriers. Il y a donc également des raisons politiques, à savoir que l'on considère que la population ouvrière est la moins intégrée politiquement dans un édifice politique. Et on considère que on les fait souffrir un peu, ce serait relativement facile de les amener à se révolter contre leur gouvernement. La stratégie est explicitement, si l'on veut dire, révolutionnaire, de faire en sorte qu'il y ait une révolte qui éclate dans le pays ennemi. Donc on a donc une sorte d'ambiguïté qui est très intéressante de cette notion de peuple démocratique qu'il s'agit de bombarder. Ce peuple est donc d'une part considéré comme, selon une conception très ancienne, où le peuple est en gros uniquement considéré comme l'objet de musée politique et comme une menace à l'ordre établi. Et d'autre part, il y a une notion plus moderne, plus démocratique, où on considère le peuple comme le sujet de la politique et de la souveraineté collective. Donc on a une sorte d'oscillation ici très intéressante. Donc on ne sait pas très bien quel peuple il s'agit de bombarder, mais justement cette incertitude est assez révélatrice pour elle-même. Donc pour mieux comprendre comment on peut peut-être interpréter cette ambivalence. Regardons un instant de l'autre côté du système monde et comparons cette nature instable du peuple européen avec les conceptions que l'on se fait des sauvages dans nos colonies qu'il s'agit de bombarder. Donc, dans un premier temps, si on fait un état chronologiquement en arrière, le développement de l'aviation signifie deux choses pour l'imaginaire européen. D'une part, très clairement, considère que l'aviation va mener quelque chose comme une paix perpétuelle entre les nations. Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, parce que, il y a des sources assez amusantes là-dessus, parce que ça va renforcer des liens entre les nations, parce que c'est le moyen de transport va donc renforcer notamment les liens économiques promouvoir le libre-échange, mais également parce que c'est une arme qui représente un tel potentiel de destruction que tout simplement on va se rendre compte que il y aura une sorte d'entente pacifique nécessaire. Un peu la même logique qu'on rencontrera plus tard avec la dissuasion nucléaire. Donc, d'une part, paix perpétuelle pour l'imaginaire européen, en Europe. Et d'autre part, c'est clair aussi dès la fin du XIXe siècle, on pense que l'aviation va faciliter grandement les opérations de maintien de l'ordre à un niveau global et notamment donc d'éradiquer les révoltes anticoloniales. Donc il y a très clairement quelque chose comme une représentation raciste du monde dans cette aviation, en gros paix perpétuelle en Europe et les bombes pour les coloniser. C'est la première signification culturelle, disons, de l'aviation. On constate ensuite, et c'est très net, une transformation de cet imaginaire pendant les années 20 et 30 au plus tard, disons après la Première Guerre mondiale. Parce que maintenant, il devient concevable de soumettre des populations considérées auparavant comme immunes, donc la même sorte de traitement. C'est-à-dire, on a de ce point de vue-là, je reviens sur ce point, une coïncidence entre ce qui se passe dans les colonies et ce qui se passe en Europe. Regardons pour cela quelques exemples. Premier exemple, également comme la Somalie, 1919. C'est là où le gouvernement sud-africain sollicite de la part du gouvernement impérial de Londres l'envoi d'un avion avec un pilote pour mater des insurrections qui ont eu la même année en dehors de Johannesburg. Donc Londres hésite un peu et accepte finalement uniquement contre la promesse solennelle donnée de ne pas employer l'arme contre la population blanche de Johannesburg, mais uniquement contre les natifs du Rif, s'ils devenaient plus remuants. Cette promesse sera du reste non tenue parce que 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1922, il y a effectivement une grève de mineurs blancs en Afrique du Sud qui sera réprimée grâce à l'aviation. 2 ans plus tôt déjà, donc en décembre 17, donc immédiatement après la révolution d'octobre, à Coventry, donc c'est assez intéressant, donc des villes bombardées pendant la Deuxième Guerre mondiale, la force aérienne est employée pour lancer des tracts sur un grand mouvement d'ouvriers en grève pour les exhorter à reprendre le travail de manière fortement intimidante, évidemment, donc dans la ville de Coventry. L'aviation est également employée ensuite lors de la révolte irlandaise de 1920. Et ensuite, dernier exemple, enfin, tous ces exemples sont britanniques, l'Empire britannique, lors de la grève générale de 1926, l'armée de l'air sera employée à l'intérieur de la Grande-Bretagne pour donc assurer des liaisons pour distribuer des journaux conservateurs et également à amener, c'est pas une blague, et a amené des forces de police dans certaines régions pour arrêter des communistes imminents. Donc on a quelque chose, très clairement ici, ce qu'on peut voir, une sorte de menace perçue, une sorte d'ordre politique qui n'émane plus uniquement de loin, c'est-à-dire de populations colonisées, mais où on a une sorte de menace de déstabilisation à l'intérieur, lesquelles on emploie de plus en plus à la fois le même langage pour le décrire et les mêmes moyens pour les combattre, à savoir donc en ce qui concerne mon exemple, donc la force aérienne. Donc un autre exemple sera littéraire. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès, La guerre dans les airs, de Herbert George Wells, qui date de 1908. Pour résumer très brièvement, donc avant la Première Guerre mondiale, donc pour résumer très brièvement l'intrigue, c'est qu'il y a une guerre entre les États-Unis et l'Allemagne, où les Allemands bombardent avec leurs zeppelines New York. Et ensuite, par contre, sont attaqués eux-mêmes par, non pas des dirigibles, mais des avions japonais, ou bien des Japonais alliés à des Chinois, et qui ensuite bombardent eux-mêmes les Allemands, qui avaient bombardé les Américains, et il s'ensuit donc un effondrement économique mondial, une insurrection musulmane mondiale, c'est une citation, et l'effondrement de toute la société. Voilà, bon, c'est là. Donc, roman à grand succès qui, selon Eric Hobsbawm, a profondément marqué la conscience européenne de son époque. Bien. Donc, dans ce roman, dans le New York bombardé par les Allemands, on trouve, je cite, des hommes, des femmes et des enfants se trouvaient mélangés comme si c'était rien de plus que des Maures, des Zoulous ou des Chinois. Donc, sous les bombes. Donc, qu'est-ce que cela traduit donc comme idée de ce que peut faire le bombardement aérien? Et quel est le point commun quand les New Yorkais bombardés avec ces sauvages, des Maures, des Zoulous et des Chinois? Bien, d'une part, évidemment, le fait qu'on puisse les bombarder, puisque on peut bombarder des Maures, des Zoulous et des Chinois, mais aussi que le bombardement aérien a rendu inopérant le pouvoir d'État. Dans le New York bombardé, dans le roman de Wells, quelque chose de très étrange se produit en effet, à savoir que les autorités américaines décident de capituler, mais qu'ensuite la population civile refuse et se lance dans une guerre de libération nationale, peut-on dire. Et donc les Allemands bombardant ont énormément de mal parce qu'ils n'arrivent pas à débarquer des troupes dans ce rôle. Et donc, Wells conclut, citation, « Les Allemands avaient frappé la tête, et la tête fut conquise et assommée, uniquement pour libérer le corps de son emprise. New York était devenu un monstre sans tête, incapable de se soumettre collectivement. » Donc cette métaphore de la tête et de l'esprit, etc., bon, le peuple et le gouvernement, etc., etc. Donc on peut voir ici, c'est la raison pour laquelle je vous donne cet exemple, que on a précisément ici ce paradoxe, si on veut, entre un pouvoir constitué gouvernemental et un pouvoir constituant, pour employer ce langage juridique, c'est-à-dire ici le peuple reprend ses affaires en main et mène une guerre démocratique, si on veut, contre le gouvernement, mais collectivement. Et donc, une fois donc, l'État anéanti sous les bombes, les New-Yorkais se transforment précisément en ce même type de sauvages qui s'auto-organisent contre un gouvernement classique, exactement comme le font les tribus dans les colonies. Des arguments semblables, très semblables, sont avancés notamment par l'administration coloniale britannique. tout un autre type de discours, tout un autre type de source. Surtout en ce qui concerne le cas paradigmatique de l'Irak, donc, où la police pour mémoire a été conceptualisée. Donc, il y a tout un discours très intéressant sur la manière arabe de faire la guerre, qui est fondamentalement différente de la manière européenne de faire la guerre. C'est-à-dire, le guerrier arabe est fier, indépendant, un chevalier du désert, tout comme l'aviateur est un chevalier du ciel. La vie des Arabes, de manière plus générale, est vue comme une guerre perpétuelle. C'est-à-dire, c'est des guerriers qui acceptent les suites tragiques de cet état de guerre comme une fatalité inhérente à la vie, qui ne vont pas se plaindre, ce qui par ailleurs correspond à leur fatalisme proverbial. Donc là, notamment une bombe qui leur tombe sur la tête va être vue comme une intervention divine qui... Voilà. Donc les Arabes sont très différents de nous, tellement différents, et donc là je cite encore une fois Lord Trenchard, donc le premier commandant de la Royal Air Force, qui déclare donc devant le Parlement de Londres que les Arabes sont tellement différents, they have no objection to being killed. Donc, ils n'ont pas d'objection à se faire tuer. Les Arabes aiment tellement la guerre parce qu'elle implique cette confrontation perpétuelle avec la mort. Et donc, il y a donc une sorte d'excitation romantique pour eux. Et donc, du coup, ils font évidemment pas cette différence entre combattants et non-combattants. De manière plus générale, et donc ça c'est quelque chose qui se retrouve dans des milieux, notamment du renseignement impérial britannique, il y a un parallèle très clair qui s'établit entre la manière dont on voit les guerriers arabes et la manière dont on voit les forces aériennes. Les deux sont effectivement, il y a une image de chevalerie, d'être noble, d'être indépendant, de ne pas être justement, ou d'être tout le contraire de ce que c'est le poilu de la Grande Guerre. Qui amène donc à cette idée qu'il y a quelque chose, un point de jonction entre les deux. Donc c'est notamment Laurence d'Arabie qui va dire que ce que les Arabes ont fait depuis longtemps, les forces aériennes enfin